Gloire au Seigneur. Merci pour les chants, merci aux musiciens. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux parce que le Seigneur Jésus est là, qu'il est présent et nous croyons qu'il peut agir encore ce soir. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir la parole de Dieu. Pour ceux qui l'ont, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on va lire les 10 premiers versets, l'évangile de Luc, chapitre 15. Nous lisons « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, il s'agit là de Jésus bien évidemment, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Verset 8. « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. » Que le nom du Seigneur soit béni. Ces paraboles que Jésus va dire, c'est des paraboles qui m'ont bien souvent interpellé. Et en tout cas, dans la première, il est là question d'un berger. Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons y voir là une image parfaite de l'amour de Dieu. C'est évident. Nous y voyons là l'amour d'un berger pour ses brebis, l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse s'attarder un petit peu plus sur la deuxième parabole qui exprime en tout cas la même pensée, mais d'une manière différente, celle de cette femme qui avait 10 drachmes. On pourrait dire cette femme qui avait 10 pièces d'argent et qui va en perdre une seule. C'est un peu surprenant et je dois dire que j'ai longtemps été interpellé par cette parabole, mais je pense qu'elle exprime avec profondeur et force l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il y a là dans cette parabole un enseignement profond parce qu'elle nous exprime d'une manière désintéressée l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Au début, nous avons lu que les pharisiens étaient là et qu'ils murmuraient. On pourrait dire les hommes religieux, ceux qui étaient habitués à la loi, ceux qui étaient là, qui connaissaient les Écritures, mais qui n'avaient pas saisi leur application et ce qu'ils pouvaient donner comme vie dans leur propre existence. Ils murmuraient en disant « Mais voilà, Jésus-Christ, il est là encore une fois avec des gens de mauvaise vie. Il est là, il mange avec eux, ce n'est pas correct, on pourrait dire. » Et c'est à ce moment-là que Jésus va leur donner cette parabole. C'est à ce moment-là où Jésus est en train de pointer du doigt quel est le but ultime de sa venue sur terre, pour exprimer à ceux qui étaient là en train de critiquer, mais voilà pourquoi je suis venu, voilà pourquoi je suis dans ce monde. Il y avait là une femme qui avait 10 drachmes, 10 pièces d'argent, mais elle va en perdre une. Elle va en perdre une. Et on pourrait se dire, et c'est là un peu la pensée moderne, on pourrait dire que après tout, 10% de perte, c'est pas grave. Elle aurait pu continuer sa vie en disant, mais voilà, il m'en reste 9, j'ai de quoi pouvoir à mes besoins pour les jours à venir et je verrai pour remplacer celle que j'ai perdue. Elle aurait pu dire, après tout, ça fait partie de l'existence de perdre quelque chose, je vais pouvoir continuer ma vie ainsi, mais il n'en est pas. Jésus-Christ avait vraiment ce souci de pouvoir nous enseigner, de pouvoir manifester et exprimer son amour pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Matthieu, il va dire « Mais ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, C'est pas ceux qui pensent que tout va bien pour eux qui ont besoin du salut. C'est pas ceux qui se sentent à l'abri, ceux qui pensent que leur vie se situe uniquement dans le manger, dans le boire, pour reprendre une expression que l'apôtre Paul va dire. Ce n'est pas uniquement ceux qui pensent que la vie se résume à travailler, à fonder un foyer, à faire construire une maison, à pouvoir fonder, bien sûr, au-delà de la famille, nos descendants, un avenir pour nos enfants. La vie ne se situe pas uniquement dans ça. Et il me semble que ces hommes religieux avaient besoin de comprendre cela de la même manière que nous, nous avons besoin d'être interpellés par l'amour de Jésus-Christ. Parce que cette parabole nous envoie directement à cette question fondamentale. Mais pourquoi Jésus-Christ est-il venu ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a voulu donner cet exemple, l'exemple de cette femme ? Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre ce soir pour chacun d'entre nous ? Qu'on soit peut-être nouveau ce soir, qu'on découvre cette parabole pour la première fois, ou qu'on ait l'habitude de la lire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Qu'est-ce qu'on devait saisir comme réalité spirituelle ? Moi, je pense que Jésus-Christ a été manifesté d'une manière extraordinaire parce que de la même manière que cette dame, que cette femme ne s'est plus occupée, à partir du moment où elle avait perdu cette drachme, ne s'est plus occupée des 9 autres. Elle a complètement mis de côté les 9 autres. C'est comme si elle disait, mais qu'importe les 9, ce qui compte, c'est 7 drachmes. C'est comme si elle remettait un équilibre dans son univers, dans sa vie, dans son environnement. C'est comme s'il y avait cet équilibre qui était remis pour dire, mais voilà, je connais la valeur d'une drachme. Je connais sa réelle valeur, je connais le prix, je sais ce qu'elle vaut et je vais mettre tout en œuvre pour aller la trouver. Je vais mettre tout en œuvre pour essayer de la retrouver et de la rétablir avec les 9 autres. Jésus-Christ, vous savez, bien des gens pensent, croient qu'il est venu dans ce monde parce qu'il a été obligé ou parce que c'était ainsi, c'était écrit dans des livres. Il n'a jamais existé avant. La seule existence, selon certaines personnes, ce sont les faits relatés dans les évangiles. Jésus-Christ est mort à 33 ans et demi. Voilà sa vie, comment c'est terminé. Mais il n'en était pas ainsi. Il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il régnait avec Dieu, il était dans le ciel pour gouverner. Tout a été fait par la parole du Seigneur. Et Jésus-Christ n'a pas considéré ce qu'il était lorsqu'il a voulu venir sur terre. Jésus-Christ n'a pas considéré ce qu'il allait perdre lorsqu'il s'est dit « Le seul moyen d'offrir le salut à l'humanité, ce n'est pas de pouvoir essayer par quelque autre moyen d'apporter le pardon, mais le seul moyen qu'il y avait pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans sa mort et dans sa résurrection, c'est dans le sacrifice accompli sur le bois de la croix. Il y avait cette réalité, je pense, et j'en suis convaincu qu'au-delà de l'histoire de cette parabole pour cette femme, les pharisiens devaient saisir cela, c'est que Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ n'était pas un homme. Jésus-Christ a réellement souffert lorsqu'il a décidé de venir prendre une apparence humaine et venir grandir dans ce monde, marcher avec les êtres humains pour les comprendre sans jamais pécher. Jésus-Christ était Dieu et il s'est volontairement dépouillé. Vous savez, la Bible nous dit, et c'est dans le livre des Psaumes, et c'est Dieu qui parle, et on peut s'imaginer le règne et la gloire de Jésus-Christ. Il est écrit « Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme ». Dans un autre passage, il est écrit « L'argent est à moi et l'or est à moi ». Voilà ce qu'il y avait, voilà la gloire de Jésus-Christ. Et il y aurait tellement d'autres passages qu'on pourrait citer ce soir pour exprimer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à l'or et l'argent qu'il avait. Jésus-Christ n'a pas dit « mais tout le monde m'appartient, alors je vais essayer de trouver une solution » et je le répète parce que c'est fondamental. Vous savez, on rencontre des personnes qui pensent que parce que Jésus-Christ était Dieu, il n'a pas vraiment souffert, il a pu venir dans ce monde, passer un certain temps, un épisode de sa vie, mais qu'après il est retourné. D'autres pensent même qu'il n'est pas réellement crucifié, ni réellement crucifié, que c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Mais la Bible affirme cette réalité, c'est que parce que le péché est entré dans l'humanité, parce que Adam et Ève ont péché, parce que le péché est entré, il fallait que quelqu'un puisse faire couler son sang, puisse donner sa vie pour nous accorder le pardon de nos péchés. C'est là le message de l'Évangile, c'est là ce qui pourrait résumer notre présence ce soir, c'est là ce qui pourrait résumer la parole de Dieu qui est une lettre d'amour pour chacun d'entre nous ce soir. On ne veut pas considérer autre chose que seulement Jésus-Christ, celui qui a été crucifié pour nous offrir le pardon de nos péchés. L'argent est à moi, l'or est à moi. Pourtant, Jésus-Christ, dans sa gloire, a voulu volontairement se donner. Il y a un autre passage qui peut exprimer clairement cette pensée, c'est dans Philippiens, au chapitre 2. Je vais le lire pour vous, si vous le voulez bien. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Il est écrit « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Cette femme avait 10 drachmes. Elle en perd une et elle a complètement banni les 9 autres. Comme si pour elle, celle qu'elle a perdue, c'était toute la valeur. C'était tout ce qu'il comptait pour elle. Elle a voulu chercher dans sa maison où elle était parce qu'elle savait le prix. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer, j'aimerais vous dire que vous avez du prix pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aurait eu qu'un seul homme sur terre, Jésus-Christ serait quand même venu. Il n'y aurait eu qu'un seul homme qui aurait pris, qui aurait été touché par le péché, parce que la Bible nous dit que tous les hommes ont péché. La Bible nous exprime clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour celle-là, pour cette réalité, Jésus-Christ a voulu venir volontairement, parce que votre vie, ma vie, la vie de tous les êtres humains a de la valeur, a un prix inestimable pour le Seigneur Jésus-Christ. De cette même manière, je ne sais pas si on peut s'imaginer la scène de cette femme. Nous, on lit ce texte, on est tranquillement installé, peut-être qu'on a l'habitude, et peut-être qu'on l'a lu à la maison, tranquillement installé sur un autre canapé. On voit une femme qui avait 10 drachmes, 10 pièces d'argent qui en perd une. On se dit, voilà, elle a voulu, elle aime bien avoir 10, elle aime bien avoir de l'argent, mais ce n'est pas ça. Ce qui est exprimé, c'est notre propre valeur. La Bible exprime la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. La Bible exprime que, peut-être que même, exprime l'inverse de la pensée du monde. Parce que le monde pourrait nous dire, mais tant pis pour lui, s'il est perdu, il est perdu. Le monde pourrait dire, mais tu passes ça en perte et fracas, excusez-moi l'expression, peut-être que votre vie, pour les uns et les autres, vous avez été tellement rabaissé que vous ne savez même plus la valeur que vous avez. Mais laissez-moi vous dire que la Bible vous dit que vous avez de la valeur au point que Dieu ait voulu donner son Fils pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Dépouillé, je ne sais pas, peut-être c'est un mot qu'on a du mal à comprendre, mais on pourrait le traduire de la sorte, ça veut dire réduire à néant, vider, vider. Celui qui régnait dans les lieux élevés, celui qui a tout créé par sa parole, a voulu volontairement être vidé, être réduit à néant, s'enlever, être dépouillé pour venir donner sa vie. Et il y a ce texte dans Ésaïe qui exprime vraiment, je pense, en tout cas, un des textes qui exprime ce que le Seigneur a pu subir et a dû subir lorsque nous lisons « Il s'est dépouillé ». Je vais vous le lire dans une version en français courant. Il était dit, c'est dans Ésaïe 50, si vous voulez le lire peut-être un peu plus tard, « J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. » Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. On peut lire ce qu'a été le dépouillement de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut voir quel a été le prix que Jésus-Christ a payé pour chacun d'entre nous, parce qu'on a été et on est peut-être cette drachme perdue. On est cette personne qui est là, qui finalement ne sait pas trop pourquoi on est dans ce monde. C'est une question existentielle. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on vit? Quel est le but de notre existence? Qu'est-ce qu'il faut accomplir? C'est là des questions que chaque être humain, je pense, à un moment donné dans sa vie, dans son existence, se pose. Est-ce que oui ou non, j'aurais voulu vivre si j'avais eu le choix? C'est des questions auxquelles tous les êtres humains peuvent essayer d'y réfléchir, mais il y a une question, peut-être qu'on n'a pas choisi de venir au monde, puisque les philosophes, ceux qui réfléchissent, pensent et disent que c'est la seule choix qu'on n'a pas dans notre vie, c'est de choisir de vivre, de venir au monde du moins. Mais il n'en est pas moins que pour Jésus-Christ, le fait qu'on soit venu au monde, cela vient justifier son sacrifice sur la croix, parce qu'on avait besoin de Jésus-Christ pour être pardonné de nos péchés. On avait besoin de Jésus-Christ pour être retrouvé, nous qui étions perdus. On avait besoin et on a besoin de Jésus-Christ, c'est une réalité. On peut essayer de combler Jésus-Christ par autre chose. On peut essayer de vivre en essayant de trouver dans ce monde, ici-bas, autour de nous, quelque chose qui puisse remplir notre cœur, notre vie. On peut essayer, mais ce sera toujours en vain. On peut essayer de se dire, mais j'ai été perdu, je suis perdu comme cette drachme, comme cette pièce d'argent, et je vais essayer de trouver autre chose qui pourra remplacer. Je vais essayer de trouver quelque chose qui pourra combler mon existence. Il y a cet homme, je ne sais pas si vous le connaissez, mais peut-être vous en avez entendu parler, c'est John Newton, c'est l'auteur du chant Amazing Grace, Grâce infinie. C'était un négrier. C'était quelqu'un qui, toute une partie du moins de sa vie, était là, allait dans des pays, prenait des esclaves, les ramenait en Angleterre et partout ailleurs. Cet homme naviguait. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. À l'époque, il n'y avait pas des moyens modernes comme aujourd'hui. Cet homme avait l'habitude de naviguer nuit et jour, continuellement, toute l'année. Cet homme avait l'habitude de regarder le ciel pour guider son bateau. Cet homme avait l'habitude d'être là, de braver les tempêtes. Simplement, une fois, cet homme-là va se retrouver confronté à une tempête comme jamais dans sa vie. Cet homme qui avait la réputation d'avoir une vie complètement débridée, de tomber, d'être dans le mal. Il était connu parmi les autres comme quelqu'un qui faisait que le mal et uniquement le mal. Cet homme, alors là, qu'il était sur son bateau comme toutes les autres fois de sa vie, alors qu'il voit une tempête s'abattre, une tempête qui va briser son bateau, il va faire cette prière toute bête. Je dis toute bête entre guillemets, une prière toute simple. Il va dire, Seigneur, si je m'en sors vivant, je te donne ma vie. Si je m'en sors vivant, je te donne ma vie. Et le Seigneur va le secourir et va pouvoir écrire ce chant qui est chanté dans le monde entier, mais dont personne n'a pu saisir, je pense, la profondeur des paroles. Parce que cet homme qui avait su regarder les étoiles pour être guidé, cet homme qui toute sa vie avait su, au travers des océans, arriver à bon port, va pouvoir dire un jour « J'étais perdu ». Mais tu m'as retrouvé. Cet homme qui avait l'habitude de regarder autour de lui pour être dirigé va pouvoir dire « J'étais aveugle, mais maintenant je vois ». C'est là l'œuvre de Jésus-Christ dans chacune de nos vies. C'est là ce que Jésus-Christ veut faire. Peut-être que tu ne sais pas que tu es perdu, peut-être que tu te bats avec la vie, peut-être que tu es là, tu essayes sans cesse de pouvoir revenir à la surface comme pour dire « mais après cette difficulté, après cette épreuve, je vais pouvoir enfin avoir du mieux dans ma vie, je vais pouvoir enfin avoir des périodes calmes » et tu vas épreuve sur épreuve, tu vas difficulté sur difficulté ou que sais-je, j'aimerais que ce soir ensemble tu puisses voir et on pourrait considérer que Jésus-Christ est celui qui peut te sortir de tes difficultés. Jésus-Christ est celui qui peut t'aider à triompher dans ta vie de ce qui est là, de ce qui t'enchaîne, de ce qui t'emprisonne pour t'apporter la vraie vie et la vie en abondance. Il s'est humilié lui-même. Humilié, on pourrait le traduire par rendre bas, abaisser. C'est pas simplement s'asseoir pour dire « je vais rester sur le côté humilié ». C'est pas simplement « j'étais avant très haut, je vais me retirer de toutes mes responsabilités » ou que sais-je. S'humilier, c'est rendre bas, c'est être bas, c'est s'abaisser, c'est prendre ce que personne ne peut prendre. Prendre ce que personne n'a voulu prendre. Et c'est là ce qui peut caractériser l'amour ultime de Jésus-Christ. C'est parce que personne d'autre pouvait faire ce sacrifice. Personne d'autre pouvait donner sa vie comme il l'a fait pour nous accorder le pardon de nos péchés. Personne d'autre pouvait nous donner un chemin sur lequel nous pourrons marcher. Nous pourrions marcher dans lequel on aura cette lumière, ce guide jour après jour qui va nous mener à bon port, qui va nous mener dans une vie où quand bien même il y a des difficultés, parce qu'on aura et on a des difficultés, mais dans ces difficultés, avec Jésus-Christ, on va apprendre et on apprend à être plus que vainqueur. On apprend à compter sur sa présence jour après jour et c'est là son amour parfait parce que l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre ponctuelle, n'est pas une œuvre qui est là, qui s'est manifestée à un moment, à un instant, qui est là dans le plaqué dans le temps, qui est ponctuelle, mais c'est une œuvre qui va continuer et qui continue tout le long de notre vie. Dans Ésaïe 52, j'ai noté ça pour illustrer, il y en a d'autres passages bien entendu, pour illustrer le fait que Jésus s'est humilié. Il est écrit, Ésaïe 52, je lis en version Bible en français courante. « La plupart, en le voyant, ont été horrifiés tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui qui régnait, qui par sa parole a créé l'univers, je ne sais pas si on peut se rendre compte. » Qui n'avait rien d'impossible. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, qui auraient pu à tout moment dire à son père « Envoie-moi des anges pour que je puisse partir, pour que je puisse rentrer ». Il aurait pu dire à son père, alors qu'il était là, battu, flagellé, alors qu'il portait cette couronne d'épines, il aurait pu à tout moment stopper et rentrer avec son père dans sa gloire. Il n'a pas voulu, au point que son visage a été complètement défiguré parce qu'il avait en but et en seule vision. Ce qu'exprime cette parabole, c'est que nous avons du prix à ses yeux. C'est que Jésus-Christ a voulu nous sauver. Il a voulu volontairement. Il a voulu donner sa vie pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Il a accepté d'être frappé pour que nous puissions vivre. C'est dans sa mort que nous pouvons avoir la vie. C'est parce que Jésus-Christ a été crucifié. C'est parce que son sang a coulé. Bien souvent, on pense, et des gens ne comprennent pas pourquoi on parle du sang de Jésus-Christ. Pourquoi on parle de la croix et qu'on parle du sang en même temps. Mais parce que dans le sang, la Bible nous dit que sans effusion de sang, on ne pouvait pas avoir de pardon. La Bible exprime cela, et c'est ce qu'a fait le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné au point d'être défiguré. Il a donné son dos, il a été battu, insulté, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie en abondance. La parabole de cette dame souligne cela, c'est que, je vais le relire, c'est « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'en en perd une, n'allume une lampe ?» Et ça m'a interpellé parce que elle veut rechercher la drachme perdue. Parce qu'encore une fois, et je le redirai, je ne pense pas assez ce soir, qu'elle savait la valeur de cette drachme. Et Jésus-Christ vous aime d'une manière parfaite, parce qu'il a donné sa vie pour vous, parce que vous avez une valeur inestimable. Mais à un moment donné, quand même, je pense que dans notre vie, il faut considérer le fait d'allumer ou pas la lampe. Il faut considérer le fait de pouvoir être éclairé ou pas. Il faut vouloir être éclairé sur notre condition ou pas. Parce que si on veut être trouvé par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a aimés le premier, puisque c'est cela qui nous ouvre ses bras d'amour, c'est cela qui nous ouvre un accès auprès de lui pour que nous puissions le rencontrer, parce qu'il nous a aimés d'une manière parfaite et en premier, il faut quand même choisir de dire « Seigneur, instruis-moi, j'ai besoin de ta lumière. Seigneur, viens éclairer ma vie. Jésus-Christ, montre-moi si dans ma vie je suis en règle avec toi ou montre-moi si je dois encore changer quelque chose dans ma vie. » J'aime bien illustrer la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et dans le psaume 32, on peut lire vraiment cette pensée. Je vais le lire encore une fois dans la version en français courante. Il est écrit « Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts, je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui, et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Je pense que ce texte exprime vraiment, vraiment une vie sans Jésus-Christ, une plante en plein soleil. Une plante qui essaye malgré tout de vivre, mais qui tôt ou tard va finir par être desséchée. Une plante qui va essayer de pouvoir plonger ses racines en profondeur pour prendre de l'eau, pour essayer de chercher des ruisseaux de ce monde, mais la chaleur sera trop forte. La chaleur sera toujours trop forte parce que la chaleur du péché, ça sera toujours quelque chose qui va dessécher notre vie. Tu en as marre d'être desséché, tu en as marre d'être là, d'être fatigué, d'être épuisé, de porter des poids dans ta vie, d'être pris par l'angoisse, d'être pris par la dépression ou que sais-je encore. Il te faut une eau divine, il te faut une rosée qui vienne du ciel, il te faut Jésus-Christ qui vienne étancher ta vie, qui vienne pour t'apporter le pardon de tes péchés, pour t'apporter un rafraîchissement dans ta vie, pour t'apporter ce que nul autre ne pourra te donner, ce que les eaux de ce monde ne pourront jamais te donner parce que le soleil sera toujours trop forte pour les sources de ce monde. Il te faut venir puiser la vie dans celui qui est la vie, et c'est Jésus-Christ. Je vais terminer, parce qu'on pourrait en parler longuement, mais toutes les bonnes choses ont une fin, je pense. Il y avait quand même un but à tout ça. C'est que cette femme retrouve la drachme. C'est qu'il fallait qu'elle la retrouve. C'était son objectif numéro un. Je pense qu'elle a dû annuler tous ses rendez-vous. Il y avait une seule et même pensée qui peut-être obsédait sa vie, c'était retrouver la drachme. Il y avait cela, et encore, comme je l'ai dit précédemment, mais peut-être pour exprimer et pour replacer cela dans le contexte de la parole de Dieu, il faut peut-être s'apercevoir que nous, nous sommes perdus pour réclamer le secours du Seigneur Jésus-Christ. Il faut quand même qu'on puisse voir dans notre vie où est-ce qu'on se situe, sur quel chemin est-ce qu'on est placé. Dans quel coin de notre maison est-ce qu'on est? Dans quel coin nous sommes pour savoir si oui ou non nous avons besoin d'être retrouvés par le Seigneur Jésus? Le psaume 31 exprime cela. C'est un psaume qui m'a toujours marqué. Je vais le lire dans la version second 21. Il est écrit, le psaume 31 au verset 13, « Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet perdu. » Comme un objet qui a disparu. D'autres traductions disent « je suis comme un plat cassé ». Voilà peut-être l'aboutissement de quelqu'un ce soir, cette conclusion un peu terrible, un peu terrifiante qu'une personne pourrait dire ce soir « je suis oublié, je suis comme un mort, je vis mais il n'y a plus de vie en moi, j'existe mais je subis la vie plus qu'autre chose ». Je suis simplement las de vivre, las d'exister. Je suis comme un objet perdu, dont personne ne se soucie, dont personne n'a envie de retrouver. Et j'aimerais vous dire que de la même manière que cette femme voulait retrouver cette drachme, le sacrifice de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, est simplement là pour rappeler à l'ensemble des êtres humains, à l'humanité tout entière, mais personnellement pour chacun d'entre nous ce soir, que pour Jésus-Christ, nous serons et nous ne sommes pas comme un mort. Pour Jésus-Christ, nous ne sommes pas comme un objet perdu dont personne ne se soucie. Nous ne sommes pas un plat cassé qui ne sert plus. Mais pour Jésus-Christ, nous avons une valeur inestimable. Et excusez-moi si je me répète, excusez-moi, mais parce que je pense sincèrement, sincèrement, qu'une personne a le besoin d'entendre cela, on a du prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. On a un prix, quand bien même tu te dévalorises, quand bien même tu penses que tu ne vaux rien, quand bien même tu aurais entendu toute ta vie jusqu'à maintenant que tu ne vaux rien, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ exprime totalement l'inverse parce qu'il a souffert pour que nous puissions être trouvés par lui et nous offrir la vie et la vie en abondance. Il est écrit, et on connaît beaucoup ce passage, que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est dans Luc 19 au verset 10, ce qui exprime parfaitement l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Il y a plus de joie Il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Pour un seul pécheur. On pourrait être là, être assis dans ce lieu en disant « Mais moi, je ne suis pas perdu. Moi, je ne suis pas malade. Moi, je ne suis pas atteint du péché. » On pourrait dire tellement de choses, mais la réalité, c'est cela, c'est que dans le ciel, Dieu se réjouit lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Lorsque quelqu'un dit « Mais oui, j'ai besoin d'être éclairé, j'ai besoin d'être retrouvé, j'ai besoin d'être aimé par celui qui est l'amour manifesté, j'ai besoin de vivre par celui qui peut donner la vraie vie, j'ai besoin de pouvoir continuer mon existence sans crouler sous les fardeaux, mais malgré les souffrances et les épreuves, en ayant cette joie que seul Jésus-Christ peut donner, cette joie que le monde ne peut pas comprendre, cette paix que les autres ne pourront jamais intellectualiser, réfléchir, comprendre, mais cette paix que seul Jésus-Christ peut donner. » Peut-être qu'il y a là quelqu'un qui a besoin de cela. Peut-être que dans ce lieu, il y a une personne qui a besoin d'entendre que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'on ne se lassera jamais de le dire parce que c'est là l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. C'est là le but de la venue de notre Sauveur. Et c'est pour cela qu'il y a des réunions comme celle-ci, pour qu'ensemble, nous puissions s'exprimer autour du sacrifice de Jésus-Christ, que nous puissions nous exprimer ensemble pour que nous puissions trouver ce chemin, le seul chemin sur terre, c'est ce chemin qui mène à Jésus-Christ. Amen, on peut prier un instant si vous le voulez bien. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'il t'a plu d'envoyer ton Fils pour nous sauver, parce que nous étions tous perdus. Comme ta parole nous le dit, le salaire du péché, c'était la mort. Nous étions là, perdu, voué à une mort certaine, sauf que il t'a plu. Tu as voulu venir nous sauver. Merci, merci pour ce sacrifice. Merci pour le pardon de nos péchés que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, parce qu'au travers de la croix, nous avons la vraie vie. Merci parce que Jésus-Christ nous a aimés au point de venir nous trouver, nous chercher là où nous étions perdus. Dans notre maison, dans les coins, là où nous sommes, dans notre vie. Peut-être que nous sommes dans une voie sans issue. Merci Jésus-Christ parce que tu es venu nous prendre dans cette voie sans issue pour nous replacer sur le vrai chemin, sur le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Père, merci pour cet amour. Merci parce que tes bras sont encore ouverts ce matin, cet après-midi. Merci parce que tes bras sont toujours remplis d'affection, sont toujours remplis de compassion. Tes bras sont toujours là pour venir nous retirer de la boue du péché et nous donner de nouveaux vêtements pour nous laver, nous purifier en Jésus-Christ. Père, sois loué pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de ton Fils. Amen.